Alors, bonjour, bonsoir, bon matin. Bienvenue à Yoga Partout Web Radio. Aujourd'hui, Renaud Cellier nous parle des éditions qui portent le même nom. Du journal du yoga publié, qu'il publie donc depuis 2006, pardon, depuis l'an 2000, qu'est-ce que je dis? Depuis l'an 2000, un journal qui est écrit par une équipe de journalistes, des professionnels du yoga et du mieux-être. Des gens qui œuvrent aussi dans le domaine des thérapies, les médecins, les naturopathes, les humoristes, toutes les personnes qui touchent aux techniques. L'objectif du journal du yoga est de promouvoir auprès du grand public, ah oui, oui, ça c'est vous et c'est moi, les pratiques du yoga, les disciplines corporelles, énergétique. Chez mon invité Renaud Cellier, président des éditions portant son nom, il n'y a aucune exclusion ni a priori. Monsieur Cellier est en onde avec nous. Je vous demanderai, Renaud, de fermer votre appareil parce que il y a un écho. Donc, nous irons ensemble discuter de yoga dans quelques instants avec vous. Entre-temps, et avant de débuter, en deuxième heure, la Fédération francophone de yoga depuis le Québec avec le secrétaire canadien Swami Vijnananda. C'est donc un rendez-vous. Restez avec nous et si vous avez des questions, vous pouvez nous rejoindre en tout temps par courrier électronique seulement à l'adresse suivante. Chemin vers le cadre. À commercial. yogapartout.com. Renaud, pour les gens qui ne vous connaissent pas, s'il vous plaît, pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît?
Oui, bonjour à tous. Eh bien, écoutez, je suis le directeur de la publication, l'éditeur du magazine qui s'appelle aujourd'hui le Journal du Yoga, qui s'appelait jusqu'il y a encore quelques mois Santé Yoga, qui est relativement bien connu, qui n'est disponible que par abonnement dans le monde entier, pour ceux qui le veulent bien. et également l'initiateur du Yoga Festival à Paris, qui a fait quand même pas mal de bruit, voilà, qui était pendant ces deux premières éditions, qui a été un grand, grand, grand succès. Donc, nous sommes avec ce journal, avec ce festival, au cœur ou à la croisée des chemins de la manière dont aujourd'hui les gens abordent le yoga, qu'ils soient avancés ou qu'ils en aient simplement envie.
Merci. Merci, c'est limpide comme discours. J'aime beaucoup ça. Vous êtes très bref et je vais tout de go informer les gens qui écouteront cette entrevue web radio en différé, en archive. Je vous ai demandé à deux reprises s'il y avait des questions que vous vouliez discuter ou que d'autres questions que vous désiriez hésiter. Et à mon grand désarroi, vous avez dit non, on peut parler de tout.
Oui, effectivement, c'est un peu notre philosophie aussi, pas simplement dans la vie, mais aussi dans les choses que l'on organise et que l'on met en œuvre, c'est qu'on peut parler de tout, oui, et tout est intéressant d'ailleurs. Et puisqu'on parle du yoga, le yoga est dans tout. C'est pas étonnant qu'on soit dans une émission avec yoga partout, puisque effectivement le yoga est en tout. Je crois que il n'y a pas que le yoga dans la vie, mais le yoga est dans tout, et c'est ce qu'on s'emploie à faire. C'est pour ça que dans notre journal, dans notre festival, on ne parle pas que de yoga, on parle de la vie. Le yoga fait partie de la vie, c'est un art de vivre, et donc dans l'art de vivre, toutes les questions sont intéressantes, qu'elles soient économiques, qu'elles soient politiques, qu'elles soient écologiques, qu'elles soient artistiques, ou emprunter d'autres domaines. Tout est intéressant et on peut parler de tout. Et vous avez raison, Daniel.
Et voilà. Et voilà. Et c'est un plaisir de discuter avec vous, M. Cellier. Je sais que votre horaire est assez assez complexe. Vous avez quand même la responsabilité de communiquer le yoga avec la précieuse collaboration de votre éditrice, Madame Isabelle Claire, dont on va revenir un peu plus tard dans l'entrevue. Sauf qu'entre-temps, j'aimerais quand même vous demander votre parcours à vous. On va parler aujourd'hui du business du yoga. Il y a des gens qui ont une crainte, ont une peur d'utiliser même le mot business. Pour vous, le yoga, la business du yoga, qu'est-ce que ça signifie?
C'est une question très très intéressante et c'est une question qui préoccupe énormément la communauté du yoga. Et aussi la communauté des gens qui veulent faire des affaires autour du yoga. Il y a deux choses. Il y a une chose, c'est que le yoga en soi se méfie de l'argent, du commerce. Le yoga promeut un style de vie plutôt frugal et promeut une pratique qui est centrée sur l'intériorité. Le commerce a tendance à nous faire désirer, consommer des choses qui sont extérieures à nous. Il y a là quelque chose d'un petit peu antinomique entre les deux. Donc il y a d'un côté les défenseurs d'une certaine tradition et qui souhaitent que, du moins, qui se méfient à la fois de la communication et des gens qui veulent faire des affaires autour du yoga, car là on se tourne vers l'extériorité et on en oublie le travail d'intériorité. D'un autre côté, on voit bien que les médias, on voit bien que la publicité aujourd'hui s'accapare, s'approprie la bonne image qu'a le yoga auprès de la majorité des personnes. Aujourd'hui, votre grand-mère, votre oncle, votre cousin, vos amis, votre avocat, etc., etc., ont une bonne image du yoga, ont une image positive. Le yoga est un facteur de bonne santé, un facteur de bonne humeur, un facteur de joie, de bien vivre, d'accepter aussi sa condition. Et donc, les publicitaires, les marchands, veulent reprendre cette bonne image à leur compte. Donc, il y a effectivement par exemple, sur le festival que nous avons organisé sur deux éditions en 2012-2013, se pose la question de l'économie d'un projet, d'un tel projet. C'est-à-dire que quand on met en œuvre des projets, que ce soit un journal, un festival, il y a une économie derrière. Et beaucoup de gens l'oublient. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait à la fois de l'argent qui rentre pour financer, non pas pour gagner de l'argent, mais il y a des économies qui sont équilibrées et on ne peut pas faire fi de l'économie des choses. Donc il faut trouver une harmonie entre tout ça. Il faut, voilà, je suis un peu confus. Je vais reprendre mes esprits et nous allons continuer notre conversation. J'ai été un petit peu dérangé. Voilà.
Bon, écoutez, c'est normal parce que les gens ne se rendent pas compte. Alors, je vais faire un témoignage personnel pendant que vous allez reprendre votre esprit. Finalement, vous avez été très limpide, Renaud. Moi, c'est ce que j'adore, c'est lorsqu'on a une conversation, on dit les choses comme elles sont. Malheureusement, vous avez, je vous accorde tout à fait raison, il y a plusieurs débats, il y a plusieurs dichotomies. Hein, vous avez parlé d'antinomine, faudrait me définir ce mot-là. Mais pour moi, c'est vraiment là, des polarités. C'est-à-dire que d'un côté, on prêche quelque chose et de l'autre côté, on fait autre chose. Et parfois, ça peut être mal vu simplement parce qu'il y a des jaloux. Moi, c'est comme ça que je le vois. Le yoga, c'est pour tous et il y a un business du yoga qui est essentiel. Sans le business du yoga, l'aspect contemporain, accessible pour tous, hein, vous l'avez dit, c'est bien vu. J'ai reçu une facture sur ma carte de crédit l'autre jour où il y avait un petit signe d'une dame qui faisait de la méditation et c'était écrit à côté « Payer en toute quiétude ». Alors, je comprends très bien votre désarroi, sauf que c'est rare qu'on a quelqu'un qui, justement, peut nous donner cet aspect de la réalité du business du yoga. René Cellier, je vous remercie. Vous avez été très loin et vous allez continuer d'aller très loin avec votre Yoga Festival. Mon témoignage personnel est le suivant. Lorsque vous avez mis en place l'infrastructure web, hein, parce que moi je fais du yoga web, je regarde ce qui se passe sur Internet, vous avez mis en place une structure internationale. Vraiment, je vous lève mon chapeau. Et j'aimerais que vous nous en parliez un tout petit peu. Mais d'abord, on va revenir avec le journal du yoga. Parce que, simplement, lorsqu'on regarde le format de votre ouvrage, on se rend compte que vous publiez même certains numéros de toute façon gratuite. Est-ce exact? Sinon, comment ça fonctionne?
Alors, le journal du yoga est un mensuel. Donc déjà, c'est un rythme qui est très agréable. Le côté mensuel est un rythme qui va avec l'accoutumance, avec le rythme, avec un peu comme une respiration, ce qui fait que c'est un journal, le 30 jours, c'est un journal qu'on peut attendre chaque mois et qui fait qu'il bat le rythme comme une respiration. Donc c'est un mensuel modeste puisqu'il ne fait que 16 pages, mais il n'a pas de publicité. Donc on parlait du business tout à l'heure. Je pense qu'il y a d'autres manières de faire du business. Et là, on est sur une tendance qui est effectivement internationale et mondiale. L'idée n'est plus forcément capitalistique, il n'est plus d'exploiter les pauvres clients, il est de travailler avec ses clients qui s'intéressent à votre projet. Vous êtes initiateur d'un projet et le projet appartient après à ceux qui le pratiquent, à ceux qui lisent le journal. Donc c'est cette idée-là. Donc c'est un mensuel sans publicité, donc ce qui induit tout à fait une autre économie, donc qui ne nous oblige pas à être en kiosque ou en librairie, et donc qui n'est diffusé que par abonnement, ce qui fait qu'on imprime exactement le nombre de journaux qui sont destinés à nos abonnés. C'est toute une économie qui est relativement frugale. L'idée d'une économie n'est pas forcément non plus de s'enrichir, l'idée c'est d'équilibrer les budgets de telle sorte que chacun y trouve son compte. J'enchaîne un peu sur l'économie. Sinon, notre journal existe depuis 14 ans maintenant, avec presque 10 000 abonnés tous les mois qui le reçoivent. Et nous souhaitons bien sûr agrandir cette communauté. Et nous offrons effectivement des hors-séries qui sont parfois liées à notre annuaire, puisque sur www.annuairedouyoga.com, vous pouvez suivre l'ensemble de la communauté de professeurs, de centres qui proposent leurs stages, leurs séjours, leurs formations, leurs cours. Ça, bien sûr, pour l'instant, sur la francophonie. On est encore en langue française. Voilà pour le journal.
Et voilà.
On parle de yoga, on parle de la philosophie, on parle de beaucoup d'autres choses aussi, grâce à notre rédactrice en chef également. On parle de la vie, on parle de cette autre économie, de cette recherche d'une autre manière d'utiliser son temps, d'être avec le monde, d'être avec les autres. Parce que dans le journal, on pense, un, qu'il n'y a pas que le yoga dans la vie, même si c'est un journal sur le yoga. Et on pense aussi qu'avec le yoga, il s'agit d'une écologie, ce qu'on pourrait appeler une écologie individuelle. C'est-à-dire que nous sommes les premiers à pouvoir être des gens qui parlent d'écologie, puisque c'est l'écologie intérieure, c'est l'économie d'énergie dans son propre corps qui fait qu'on peut aller vers les autres. Le yoga n'est pas simplement une technique de bien-être et de bonne santé, bien sûr qu'elle participe à cette bonne santé, mais c'est aussi un projet pour transformer le monde et transformer ses rapports avec les autres. C'est pas un art qui est seulement tourné vers soi. Il est tourné vers la transformation du monde, la transformation des rapports avec les autres, la manière dont on vit ses amours, sa vie, dont on gagne son argent, etc., etc., qu'on le dépense aussi.
Et voilà. Merci beaucoup, Monsieur Renaud Cellier, le journal du yoga. En effet, il n'y a pas seulement le yoga dans la vie, et ça aussi, c'est du yoga. Vous le dites l'écologie, la santé, la cuisine, les mauvaises nouvelles autant que les bonnes. Votre éditrice en chef n'a pas la plume il y a une expression ici qu'on dit au Canada, hein, elle n'a pas la langue dans sa poche, mais elle n'a pas la plume dans sa poche. Sa plume est très, très colorée. Elle est très, très au point et j'aimerais beaucoup d'ailleurs que vous nous parliez un peu de votre équipe. Vous avez aussi Mme Agathe Célibeau, Christina Canetto, vous avez des gens qui travaillent en marketing, Pascal Bourdois. Bon, et vous avez des collaborations spéciales, en l'occurrence celle de Micheline Flack, qui a su ouvrir les portes en Europe d'intégrer le yoga dans les écoles. Brièvement, pouvez-vous nous faire un tour d'horizon de votre équipe et comment ça se passe? Comment vous faites pour choisir tous les articles qui vous sont suggérés et d'en arriver à 16 pages qui, ma foi, sont très, très denses?
Alors, il y a un comité éditorial et qui est composé de Pauline Laurenceau, de moi-même et d'Isabelle Claire et des journalistes qui participent pigistes qui participent à chaque numéro, et donc les sujets se se développe au fil de l'actualité, en rapport à l'actualité ou en rapport aux rencontres. Il y a beaucoup de hasard, beaucoup de, comme si le hasard existe. Il y a beaucoup de, les choses se font un tout petit peu comme ça. On est une toute petite équipe, hein. Ça reste modeste. Et les choses se font naturellement et on s'aperçoit, quand on a un journal, que l'éditorial, ce n'est pas si compliqué. Il y a toujours des choses à dire. C'est incroyable, on pourrait croire que la source peut se tarir, mais non, il y a toujours des articles, toujours des gens qui font des choses formidables, dont il est agréable de parler. Il y a toujours des choses à dire. On voudrait plus de pages. D'ailleurs, on va le faire évoluer ce journal, je vous en parlerai tout à l'heure. Après,
d'accord.
Il s'agit effectivement de le faire connaître. Et donc c'est là que l'équipe marketing, l'équipe qui s'occupe plus du commerce et de la communication sur ce journal, pour mieux le faire connaître, met en place des stratégies de la communication. On est sur Facebook, on est sur les réseaux sociaux, on fait des mailings papier, on va à la rencontre de nos possibles lecteurs. Et c'est tout un travail qui est important aussi, puisque sans un minimum d'argent, le journal n'existerait pas.
Et voilà.
Donc voilà pour l'équipe. Et puis il y a aussi, bien sûr, des gens prestigieux ou moins qui nous sollicitent, des professeurs de yoga, des thérapeutes, des médecins, des gens qui viennent vers nous et qui disent « mais vous pourriez parler de ça, par exemple ». Et donc on invite aussi régulièrement des plumes, comme Micheline Flack, par exemple, qui nous fait une chronique quotidienne, Clara Truchot, Yvon Le Bihi, qui nous font des chroniques régulières, mensuelles, qui viennent enrichir le magazine, Tico Miro, Fabrice Midal, Éric Barret, tous ces gens-là viennent à nous, et nous allons vers eux pour qu'ils viennent, effectivement, partager avec nos lecteurs leur expérience. On va chercher des artistes, des écrivains.
Oui. Oui, il y a aussi Anne Van Ecker, Nathalie Ferrand, Jean-Louis et Francis Giafermi, Kant, Christine Lunel, Laurence Pinsard, Clara Truchot. Naturellement, nous avons parlé d'Isabelle Claire, puisque c'est une dame que j'admire beaucoup, que j'aimerais un jour avoir à mon micro. Yogi Kudu, parlez-nous un peu de Yogi Kudu, s'il vous plaît, puisqu'ici, en Amérique, puisqu'il a brisé un record Guinness et qu'il s'est retrouvé dans la première page de ce même ouvrage, ben naturellement, même si c'est un bouddhiste et il s'annonce comme cela, c'est quand même quelqu'un qui a fait des exploits physiques qui sont très intéressants. Vous l'avez déjà rencontré en personne?
Oui, Yogi Kudu est un grand, grand personnage. Il nous faisait une chronique régulière. Il a été remplacé après par Micheline Flack pour le satsang. Pendant un ou deux ans, il nous a fait une chronique régulière. Yogi Kudu est un personnage fabuleux, puisqu'il, son père était bouddhiste. Il lui a transmis certaines techniques tibétaines. Il a grandi et il est tombé dans la marmite du yoga tout petit. Et il a participé à des performances, c'est-à-dire qu'il a fait des acrobaties, il était capable de se mettre, c'est un grand gaillard costaud, hein, mais il était capable de se mettre dans des boîtes toutes petites. Et donc ça, c'est une maîtrise de la respiration magnifique. Il faisait les lettres de l'alphabet avec son corps. Et donc il y a une époque où c'était davantage accepté. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui il y ait justement, on parlait du business et du yoga, de la tradition et de la modernité. Aujourd'hui, il y aurait quelqu'un qui se produirait et qui ferait des acrobaties en yoga, alors que c'est une tradition en Inde, hein. En Inde, il y a du yoga artistique, etc. Mais en France, il y aurait quelqu'un qui se produirait à la télévision, comme Maurice Debord aussi, qui est un ami et qui l'a fait aussi, qui lui se plongeait dans la glace, puisque lui, c'est le yoga tummo. Se plonger dans la glace, il est capable de rester très longtemps dans un univers très très froid sans faire en faisant redescendre son rythme cardiaque très très bas et en gardant son énergie et sa maîtrise. Ben, je suis pas sûr qu'aujourd'hui il y ait beaucoup de respect pour ce genre de performances qui sont qui sont ludiques et qui indiquent que la force des yogis aussi. Quand on regarde l'autobiographie d'un yogi, on voit bien qu'à un certain niveau de maîtrise et de préparation, les yogis sont capables de faire des choses exceptionnelles. Donc voilà, tous ces gens-là sont devenus des proches et respectent le journal du yoga, puisque le journal du yoga les respecte et respecte tout le monde, c'est-à-dire que nous sommes capables de parler de l'acro-yoga comme du natha-yoga ou comme d'un yoga plus traditionnel. Nous pensons, nous, de notre côté, que pour ouvrir le yoga et pour que le yoga soit vraiment pour tous, il ne faut pas d'a priori, et notre idée est de dire, quelle que soit la porte par laquelle vous rentrez dans le yoga, vous avez 16 ans, vous avez 20 ans, vous avez 80 ans, peu importe, quelle que soit cette porte-là que vous franchissez pour commencer, vous cheminerez après tout au long de votre vie et vous irez à la découverte d'autres formes, peut-être plus traditionnelles, peut-être plus intérieures, peut-être plus intériorisées. C'est votre chemin.
Et non seulement c'est absolument, absolument, et même davantage, le temps file. Nous avons déjà plus de 25 minutes de passer ensemble. Et puisque nous avons aussi un invité qui est le secrétaire national de la Fédération francophone de yoga, Swami Vijnananda, qui sera avec nous un peu plus tard. J'aimerais qu'on aille de l'avant. Renaud Cellier, le journal du yoga, santé, pratique et bien-être. Et je vais me permettre d'inviter les gens qui écoutent cette émission, soit en différé, peu importe où ils se trouvent dans le monde, Yoga Partout, Web Radio rejoint 55 pays francophones dans le monde. Nous avons quand même plusieurs milliers de personnes qui écoutent cette émission. C'est surtout et souvent en différé, en archive. Et c'est correct comme ça, puisque les technologies permettent aujourd'hui à des gens, peu importe l'heure et le cadran horaire où ils se trouvent, d'écouter, de télécharger sur iTunes cette émission de radio, d'éventuellement de la retrouver sur d'autres chaînes en médias sociaux. Donc, je m'en voudrais de ne pas vous demander comment on procède pour faire partie de votre cahier d'été. Je ne nommerai pas l'année à laquelle nous enregistrons cette émission, puisque le procédé, il fonctionne année après année. J'invite plutôt les gens à se rendre sur annuaireduyoga.com, naturellement. L'inscription est gratuite. Et vous me corrigez, Renaud, s'il vous plaît, et interrompez-moi si je me trompe. L'inscription est gratuite. Les gens peuvent placer des mots-clés, quand même, ce sont des petites annonces. Là. On ne demande pas les gens à faire un copier-coller de leur site web. On les invite à annoncer un événement ponctuel.
Daniel, comment, je vais vous expliquer
comment ça va, tout ça?
Alors, le www.annuaireduyoga en un seul mot.com, c'est un outil qui se révèle formidable et qui est assez unique, en tous les cas, dans le monde de la francophonie, puisque je n'en ai pas vu d'autres. Le principe est le suivant, c'est que vous pouvez vous inscrire avec un identifiant, un mot de passe, une adresse mail, et vous ouvrez votre propre compte. Et sur ce compte-là, qui est effectivement gratuit à l'ouverture, sur ce compte-là, vous disposez de votre propre espace sur lequel vous pouvez vous présenter, faire des liens mail vers votre site, vous expliquer ce que vous faites. Vous pouvez être un praticien d'une thérapie énergétique, vous pouvez être professeur de yoga, c'est très ouvert. Vous pouvez être un centre, vous pouvez vous inscrire en tant qu'organisation ou en tant que personne. Et donc, vous disposez de votre propre espace. Au-delà du profil, vous pouvez annoncer vos cours, vous pouvez annoncer vos événements, des événements, vos stages, vos séjours, vos formations, et toutes ces annonces-là sont effectivement accessibles par tous ceux qui cherchent quelque chose, un cours, une formation, un stage, par donc le moteur de recherche qui a été conçu et programmé uniquement pour cela. Alors, On demande effectivement un paiement, malgré tout, puisqu'il y a toujours une économie quand même, on demande un paiement pour mettre en ligne, c'est-à-dire pour rendre visibles les annonces de stage, formation et séjour, et seulement les annonces de stage, formation et séjour, donc pas de cours, pas... On demande un paiement de 20 euros si aujourd'hui, si vous êtes abonné au journal du yoga, ou 40 euros sinon pour un...
Je vous interromps, Renaud. J'aimerais mieux qu'on ne mentionne pas de tarifs, parce que dans 2 ans, peut-être que vos tarifs auront baissé ou augmenté, hein, avec la nouvelle économie, les bitcoins et puis les dollars américains et chinois et tout. On continue, je m'excuse de vous interrompre. Allez-y.
Non, je vous en prie. Donc, il y a un petit paiement qui permet de mettre en ligne pour un nombre d'annonces illimité pendant un an, un paiement plutôt symbolique, j'estime, pour mettre en ligne ces annonces, et qui ouvre aussi un autre droit d'être dans le cahier d'été. C'est-à-dire que toutes les annonces de stage, formation et séjour vont se retrouver sur un cahier d'été papier, édité à 20 000 exemplaires, et qui aujourd'hui permet à tous les professeurs de yoga et au centre de communiquer de manière large et ouverte sur leur stage, leur formation ou leur séjour.
C'est ça.
Et
c'est très solide. Merci beaucoup, Renaud. Ouais, merci. Oui, effectivement, c'est minime. Vraiment, en retour, puisque Yoga Partout a sa propre bannière sur votre portail annuaire du yoga.com, c'est très minime ce que vous demandez, parce que les retours sont réguliers. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que les gens qui vous soumettent des informations de stage, de cours, avec des dates précises, il semblerait que dans la deuxième partie de chaque année, on en veut davantage. Est-ce que vous comptez dans le futur créer un cahier pour l'hiver?
Alors oui, nous avons le projet là pour septembre, par exemple, de créer un cahier de cours et de professeurs. C'est-à-dire que pour toutes ces personnes, effectivement, qui recherchent un cours près de chez eux, parce que on les rencontre, nous, les gens qui ont une bonne image du yoga, qui ont envie de faire du yoga, mais qui ne savent pas comment faire le yoga, parce qu'on leur a dit « Oh, il y a beaucoup de sortes de yoga, vous savez, c'est pas facile. » Et donc, on veut les aider à aller vers le yoga. Et donc, nous avons prévu d'éditer en septembre un cahier des cours et des professeurs de yoga, un peu à l'instar du cahier d'été, des stages, formation et séjour.
Et voilà. Et je vais ajouter là-dessus, Monsieur Renaud Cellier, du journal du yoga, donc ce journal qui est distribué partout dans le monde à l'échelle internationale, un magazine, une revue de 16 pages de qualité, du papier de qualité, quelque chose qui, finalement, on veut le conserver. Et souvent, je vois d'ailleurs des commentaires de vos lecteurs et de vos lectrices qui sont abonnés depuis longtemps, qui fièrement disent qu'ils ont conservé tous ces numéros. Je vais ajouter la chose suivante, c'est que en plus, vous offrez... donc, s'il y a un centre de yoga, d'Ayurveda, s'il y a des professeurs de yoga ou dans le domaine du bien-être qui touchent directement ou indirectement à votre champ d'intérêt, qui est le yoga, qui est notre champ d'intérêt commun, donc s'ils proposent des activités de bien-être et de remise en forme, praticiens de d'autres disciplines énergétiques, thérapeutiques, ils peuvent écrire aussi et entrer leur profil gratuitement afin d'informer les autres. Vous pouvez nous donner l'adresse de courrier électronique, s'il vous plaît, pour les personnes qui aimeraient obtenir des renseignements additionnels.
Effectivement, c'est l'annuaire du yoga, de l'Ayurveda et des autres techniques de bien-être. On est d'accord. Une adresse mail, annuaire, A-2-N-U-A-I-R-E, @ annuaire du yoga en un seul mot, .com.
Bon, alors c'est très simple. Et vous allez recevoir une réponse
Très bien.
Naturellement, vous êtes une personne qui est quand même très occupée. C'est normal. Les gens qui écrivent des fois en Amérique s'attendent à ce que lorsqu'ils ont envoyé un courrier électronique, de recevoir une réponse la même journée. Ce n'est pas le cas. Hein? Il y a quand même un volume de questions, sauf que vous êtes très à l'affût et si on est si on pratique le yoga, la patience, eh bien éventuellement on va vous parler. Là, je dis ça à la blague parce qu'effectivement, il y a d'autres personnes qui m'ont dit que c'est un peu difficile de vous rejoindre. C'est de bonne guerre. C'est le business du yoga. Vous avez des ressources qui sont limitées et je m'en voudrais de vous poser la question que j'avais débuté de demander, de me parler de vos collaborateurs. En l'occurrence, votre implication à titre de journal du yoga avec Madame Micheline Flack au niveau du yoga pour les enfants. Qu'en est-il de quel est l'accomplissement qu'elle a réussi à mettre en place au niveau des écoles et du yoga pour les enfants. Si vous en avez des détails, j'aimerais ça que vous nous en parliez un tout petit peu. Puis après ça, on parle naturellement de votre yoga festival international qui s'en vient très bientôt en 2015.
D'ailleurs, si vous voulez, je propose de mettre en ligne sur annuairedyoga.com un article sur la question du yoga à l'école développé par Micheline Flack. Comme ça, chacun pourra approfondir dans un deuxième temps. Sinon, ce qu'a fait Micheline après 20 ou 30 ans de travail magnifique avec son association, le RYE, le yoga dans les écoles, dans l'éducation, RYE, yoga dans l'éducation. Donc, elle a réussi effectivement à convaincre les pouvoirs publics en France d'agréer son association pour que l'éducation nationale, donc en France, et donc les écoles, etc., puissent avoir un interlocuteur pour faire rentrer le yoga dans les écoles. Vous savez que le yoga n'est pas du tout pris en compte par les pouvoirs publics en France, puisqu'il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de ministère qui s'occupe du yoga comme en Inde, en France. Donc, le yoga est une activité qui est non réglementée en France, et donc que le yoga et que le ministère, que le gouvernement en France agrée une association et agrée de cette manière-là le yoga pour les enfants, c'est une avancée énorme dans un pays qui est très bureaucratique, comme chacun sait.
Ouais.
Donc il y a eu un décret, il y a eu un décret qui est paru au journal officiel et qui désigne le RYE comme l'interlocuteur si vous souhaitez faire proposer des activités yoga ou former des professeurs, puisque le yoga, c'est pas forcément une activité, encore une fois, comme on fait du sport, du tennis de table ou de la course à pied. Le yoga, c'est une chose que l'instituteur, que le professeur peut intégrer dans son travail avec les élèves, qu'il fasse des mathématiques, qu'il fasse du français, qu'il fasse une langue étrangère. Le yoga fait partie de la vie. Il peut rentrer dans le processus qui est d'apprendre, qui est de faire attention, d'avoir de l'attention pour ce qu'on fait. Le yoga peut participer à ce travail-là et on sait aujourd'hui combien les enfants sont sollicités et dispersés et combien il est difficile de recueillir leur attention pendant un temps un petit peu long.
Oui, effectivement. Et j'ai moi-même eu le privilège, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent cela, puisque yoga partout est quand même une plateforme communicationnelle multifonctionnelle, si je peux m'exprimer ainsi. C'est un système de gestion de contenu. Et c'est grâce à la secrétaire internationale du RYE que yoga partout a réussi à diffuser en temps réel la première conférence qui reliait l'Amérique avec l'Europe. J'en suis très reconnaissant. Et donc, effectivement, s'il y a des gens qui veulent obtenir des renseignements additionnels sur le comment Mme Micheline Flack s'y est pris avec son regroupement, le RYE, pour instaurer la pratique, l'enseignement du yoga dans les écoles à très bas âge, hein, donc auprès des enfants. Rendez-vous sur l'annuaire du yoga où il y a un article complet qui peut être consulté. Maintenant, merci beaucoup Renaud. Maintenant,
je voudrais juste rajouter une chose, Daniel, oui? Si vous me permettez. Merci. Je voudrais le travail formidable de Micheline Flack et du RIE, et aussi le fait qu'elle a réussi à réaliser son projet à l'international, c'est-à-dire qu'aujourd'hui au Chili,
voilà,
en Argentine, en Israël, en Espagne, au Portugal, au Canada, aux États-Unis, il y a des branches, il y a des, pas des filiales, mais il y a des branches du RIE. C'est un réseau international qui forme des personnes et qui s'intéressent au yoga dans les écoles. Donc, si vous êtes d'un pays éloigné, il y a peut-être une antenne RYE pas loin de chez vous.
Vous faites bien de le mentionner parce que on parle de yoga international de plus en plus. On dit que le yoga, c'est l'union. Eh bien, allons-y avec l'union de toute la francophonie du yoga. Je sais que les critères d'admissibilité pour être reconnus auprès du RYE sont minimes, sauf qu'ils sont réalisables. Une personne qui, justement, souhaiterait offrir des cours de yoga et être reconnu par le RYE, merci au Journal du Yoga, vous mettez aussi tous ces gens en contact. Renaud, parlons maintenant, oui, il y a autre chose à ajouter ou?
Oui, je voulais juste dire que c'est vraiment notre vocation et notre position, c'est vraiment cette union, en fait, c'est fédérer l'ensemble des gens qui s'intéressent au yoga ou qui ont envie de le pratiquer. Donc, c'est vraiment cette fédération et c'est des fois des choses que chaque fédération dans chaque pays ou chaque école dans chaque pays a du mal à faire puisque souvent, chaque école reste dans son école. Et donc, nous, on fédère les différentes écoles ensemble. C'est ce qu'on a fait au festival, c'est ce qu'on fait dans le journal. Et ça, il faut quelqu'un d'extérieur au monde du yoga, comme nous le sommes d'une certaine manière, pour le réaliser. Les gens à l'intérieur du monde du yoga, dans les écoles, aujourd'hui ne peuvent fédérer l'ensemble des écoles. Vous voyez ce que je veux dire?
Un tout petit peu. J'aimerais qu'on y revienne lorsque notre invité, justement, puisqu'on parle de fédérer le yoga. J'aimerais qu'on y revienne lorsque un représentant officiel, puisque je ne suis pas
de la Fédération francophone de yoga,
pour eux, exactement de la Fédération francophone de yoga, qui est très
oui.
Bon. Moi, je le dis le mot. J'entends souvent des commentaires qui nous font poser des questions. Et là, on va avoir le mot direct là, d'un de leurs représentants. Donc, nous y reviendrons. Par contre, Renaud, connaissant votre humilité, je veux aller de l'avant. J'aimerais vraiment qu'on aille dans le fond des choses au sujet de votre prochain yoga, Festival de yoga de Paris, où là, vraiment, en 2015, au mois d'octobre, surveillez sur yogapartout.com/festival ou utilisez l'engin de recherche, trouvez festival de yoga ou allez simplement sur festival de yoga. Non, je m'excuse.
Yoga Festival.
C'est yogafestival.fr, un événement de nature internationale qui aura lieu en 2015. Renaud, s'il vous plaît, pourquoi la francophonie mondiale devrait se joindre à votre festival alors qu'il y en a tant d'autres ailleurs?
Alors, vous n'êtes pas sans savoir, Daniel, qu'après les deux premières éditions qui ont eu un certain succès, avec presque 10 000 personnes présentes pendant 3 jours, nous avons décidé de faire un break, de ne pas faire le festival en 2014. Donc, pourquoi nous avons décidé de ne pas faire de festival en 2014, c'est justement parce que, c'est effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pour les bénévoles qui l'organisent, et deux, parce que nous avons ressenti le besoin de questionner le modèle lui-même d'un festival. Notre festival était important, avec plus de 100 intervenants, des cours en atelier isolés nombreux, des cours gratuits publics, des conférences, des concerts, des exposants, plus de 110 exposants étaient là. Et donc sur cette question de l'équilibre entre le commerce, le yoga, la finalité d'un festival, nous avons ressenti le besoin de retourner un petit peu dans le bois, de réfléchir, et c'est pour ça que nous suspendons le festival à Paris de cet ordre-là en 2014. En 2015, quel type de festival ferons-nous? Je ne le sais pas encore. Est-ce que ce sera à Paris? Est-ce que ce sera en pleine campagne? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens vraiment puissent adhérer au concept? Nous réfléchissons à cette question. Et pourquoi, vous me posez la question, pourquoi toute la francophonie devrait venir? Non, pas simplement la francophonie. Il y a des Indiens qui viennent au festival. Il y a beaucoup de maîtres indiens, de maîtres francophones, de gens qui viennent d'Amérique du Sud, des États-Unis, de Suède. C'est le yoga, à quelque part, puisque c'est une pratique, puisque ce n'est pas un discours sûr, il est tout à fait possible de le partager, quelle que soit sa culture et sa langue. Donc, c'est dans cet aspect international auquel on va réfléchir aussi pour 2015.
D'accord. Et donc, l'invitation est lancée parce que c'est une grande organisation. On a débuté au tout début de notre conversation, Renaud Cellier, le journal du yoga qu'on peut retrouver sur annuaireduyoga.com. J'espère que je ne me trompe pas. Et qu'on peut aussi consulter. Oui.
Il y a aussi un site en devenir qui s'appelle lejournaldyoga.com ou un autre qui est encore en cours qui est santéyoga.com.
Et voilà.
L'annuaire étant.
Et voilà. Voilà. Et pour ce qui est du festival, eh bien, c'est yogafestival.fr. Nous avons l'impression, Renaud Cellier, que vous menez une grande barque. Et que on parle d'une grande barque, un grand bateau, paquebot, vous avez une mission de vie qui est très importante et nous aimerions, quand je dis nous, je parle pour toutes les personnes qui écoutent cette émission, à notre façon, ma façon à moi, c'est de communiquer, de rassembler, de permettre les discussions franches sans trop de censure, même si parfois ça en prend, c'est normal, on ne peut pas tout dire n'importe quand et n'importe où, sauf que c'est vraiment une plateforme qui est ouverte à tous. Et je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Comment on fait pour vous aider davantage? Si moi, là, je suis un yogi qui n'a même pas accès à des formations qui sont certifiées, vous avez parlé un peu tout à l'heure de fédérer le yoga, comment on fait pour fédérer un festival si en vue au niveau international et de faire qu'il soit une continuité, peu importe où il ait lieu dans le monde.
Ce qui est différent avec le projet que nous avons organisé et la vision que l'on avait du festival, contrairement à ce qui se passe un peu partout dans le monde, c'est que la plupart des festivals dans le monde, aux États-Unis, au Canada, à Bali ou ailleurs, ou à Berlin, à Barcelone, un peu dans toutes les villes du monde, s'adresse en fait aux aficionados du yoga, aux gens qui connaissent bien le yoga et qui viennent faire des post-formations ou qui viennent compléter ce qu'ils savent déjà faire et ce qu'ils aiment faire. Nous, bizarrement, on a eu envie que le festival s'adresse aussi aux gens qui ont envie, qui veulent découvrir. On a eu envie de faire du yoga pour les femmes enceintes, du yoga pour les personnes invalides, du yoga pour les enfants, du yoga pour les gens âgés, etc., etc. C'est un petit peu, peut-être que c'est un mal français, ce côté social, parce qu'on pense que le yoga, nous, a une vocation sociale de transformation du monde. Donc, c'est une chose importante pour nous. Voilà ce qu'on souhaite faire, c'est fédérer le public et fédérer la communauté yoga en même temps. C'est un challenge qui n'est pas facile. Mais quelle était votre question?
Comment vous allez vous y prendre justement pour fédérer, pour faire en sorte que votre mission sociale de rassembler les différents yogas qui existent, puisque moi, personnellement, ce que je me rends compte, puisque j'œuvre moi-même dans ce domaine, j'enseigne dans ma localité, c'est que c'est un business, le yoga. Et c'est un business pas parce qu'on veut que ce soit le business, c'est simplement que ce sont des réalités physiques. J'ai entendu, par exemple, un yogi visiter notre localité, faire une conférence sur une réalité très triste, par exemple, dans la ville de Toronto, des écoles très, très bien cotées, très, très bien vues, arrivent à peine, et là, on parle de centaines de gens qui prennent des cours, des formations à ces endroits-là, et la direction, les propriétaires arrivent à peine à rendre et à faire leurs frais. Comment pouvez-vous, comment croyez-vous que
l'hiver des
festivals de yoga va se dérouler en 2015?
Je comprends votre question. La question est la suivante. C'est effectivement prendre du temps, déjà. Avoir le temps de faire.
Ah.
On n'avait plus, nous, vraiment le temps de faire. C'est-à-dire qu'une année n'est pas suffisante. Une année n'est pas suffisante pour organiser un tel festival. Il faut au moins 2 années. Pourquoi 2 années? Puisque, un, les intervenants aujourd'hui, très demandés ou prestigieux, parce que très compétents aussi, ont un planning qu'ils organisent plus d'une année à l'avance. Donc, il faut donc, pour pouvoir avoir ces gens-là, et c'est un point important d'avoir des gens qui sont rares d'une certaine manière dans ce genre de festival, donc il faut s'y prendre un petit peu à l'avance. Et comment on va s'y prendre? Il faut travailler effectivement au niveau économique avec des partenariats. C'est-à-dire qu'il faut trouver des partenaires. Nous avions déjà des partenaires sur le festival de l'année dernière, comme Reebok ou d'autres. Mais il faut trouver des partenaires avec lesquels on va travailler tout au long d'une année au moins, en synergie, et le partenaire doit pouvoir donner du sens à votre événement. C'est pas forcément un partenaire qui fait du yoga, ou qui promeut le yoga, c'est un partenaire qui va adhérer aux valeurs que vous allez mettre en jeu pendant ce festival. Et ce partenaire-là, il faut le rencontrer 1 an, 2 ans avant votre festival. Il faut qu'il accepte de mettre des sous, il faut qu'il comprenne le sens du projet et que le projet puisse lui être utile également, puisque lui aussi fait des affaires. Donc ça, c'est une condition sine qua non, je crois, pour organiser ce type d'événement, si on veut un petit peu avoir l'ambition d'un grand événement qui réunisse beaucoup de gens, il faut travailler avec des partenaires. Il faut qu'il y ait des partenaires, mais il ne faut pas que les partenaires prennent le pas sur le contenu et l'éditorial de votre festival, pour pas qu'il y ait ce fameux mélange tellement craint entre le business et le yoga lui-même. Donc ça, c'est une des conditions sine qua non. Il faut mettre une équipe en place, il faut trouver des lieux, il faut etc., etc. Mais ce que j'aimerais faire, en fait, pour ne faire une confidence, j'aimerais qu'un festival de cet ordre-là soit plus participatif. Cette notion de seva qui est forte en yoga, j'aimerais, et de démocratie participative, puisqu'on parle en politique de démocratie participative, on parle aussi dans les affaires de management participatif, on parle beaucoup de ce genre de décisions plus locales plutôt que centralisé. J'aimerais qu'un festival soit aussi à l'image de ce genre de projet où chacun peut-être participe à la réalisation d'un tel festival. C'est-à-dire que les acteurs soient non pas les acteurs simplement, ne soient pas simplement des gens qui viennent prendre des cours ou assister à des concerts de manière passive, mais que ce soit aussi les acteurs, les promoteurs du festival. Que ce soit au niveau de la communication, là ce sont les réseaux sociaux, c'est chacun devient un communicant, mais aussi au niveau de l'organisation, de la préparation des repas, de l'organisation en général. Donc ce sont des réflexions comme ça.
Oui, absolument. Et je vous remercie de cette confidence. C'est rassurant de savoir que vous êtes justement à l'affût et à l'avant des pensées, des courants de pensée, puisque le yoga, c'est ça, hein, on peut faire tout, même on peut ne pas faire du yoga, sauf que s'il y a une conscience derrière tout cela, si ça fait du sens, comme vous dites, à ce moment-là, c'est voué à un succès et à une continuité sans qu'il y ait de contraintes, sans qu'il y ait de friction ou sans qu'il y ait de déception, parce que c'est une grande machine. Et nous vous remercions de prendre cette initiative, Renaud Cellier du Journal du Yoga. Et puisque notre entrevue exclusive avec vous tire bientôt à sa fin, j'aimerais que vous nous parliez un tout petit peu de ce qui s'en vient dans le Journal du Yoga, en particulier vos intentions d'élargir la diffusion, d'élargir la distribution. Est-ce qu'effectivement, il y aura éventuellement un journal du yoga francophone en Amérique? Et comment on peut faire justement pour se joindre à votre mission?
Alors, il y a deux choses. Le journal du yoga va évoluer, c'est-à-dire que je pense qu'assez rapidement, on va peut-être l'ouvrir un peu, le rendre un petit peu plus grand public, et notamment avec le rajout de cahiers plus santé, puisque la santé est une chose primordiale et que le yoga peut apporter beaucoup sur ce terrain-là. Donc on va continuer à enrichir en tous les cas l'éditorial du magazine. Après, en termes de commercialisation, c'est vrai que par exemple, dans les pays francophones, on aimerait être mieux diffusé. Et là, il faut que l'on trouve des partenaires, effectivement. Yoga Partout, peut-être, pourra en être un au Québec, je ne sais pas. Mais en tous les cas, des partenaires de diffusion, c'est une chose importante. Il en va aussi de la survie du journal, puisque le journal a une économie aussi qui est tendue, hein, il faut le dire. Donc, nous avons besoin de plus d'abonnés pour continuer notre travail.
Oui. Oui, effectivement, j'invite les gens à s'abonner. C'est un journal qui est très riche en informations. Il n'y a pas de publicité. On la cherche, on ne la trouve pas. C'est sûr qu'il y a des gens qui, fort probablement, ont des articles qui leur sont dévoués. Par exemple, à l'agenda, vous avez un agenda à toutes les parutions qui donnent de l'information en province, en France, sur l'île de France et naturellement à l'étranger. Sauf qu'il y a beaucoup, beaucoup de place pour des articles intéressants. Il y a Lilou Massé qui a été interviewé. Il y a Alain Forget dans votre numéro de mai 2014. Il y en a pour tous. Le prix est raisonnable. Et vous vouliez ajouter quelque chose? Inviter les gens peut-être à s'abonner. Comment on fait pour recevoir votre journal chez soi?
Alors, il suffit de nous en faire la demande. Il y a sur le site santéyoga.com ou même sur yogafestival.com des offres d'abonnement en ligne. Donc, on peut s'abonner en ligne en payant avec sa carte bleue ou par PayPal. aujourd'hui, c'est comme ça qu'on peut s'abonner. Et tous les mois, vous recevrez le journal du yoga dans votre boîte aux lettres.
J'ai repris un ancien numéro que j'ai beaucoup aimé au mois d'avril 2013 avec l'entrevue de Madame Bernadette de Gasquet. Vraiment, il y a de la qualité, chose qui est rare. il faut le dire là. Il y a tellement n'importe quoi.
Tous les articles sont originaux. C'est-à-dire que tous les articles sont originaux. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher sur le web nos articles. Tous les articles, tous les gens qu'on interviewe sont vraiment interviewés, sont vraiment rencontrés. Si on fait un interview avec Deepak Chopra, ben il est vraiment rencontré.
Vous avez des journalistes. Vous avez une journaliste qui a été en Inde visiter Sri Tathata. Si les journalistes en herbe, hein, parce qu'on parlait là de démocratiser la participation, certaines personnes veulent s'exprimer soit par la voix de l'écrit, par la voix de la radio ou de la télé. Vous avez des plans à ce niveau de numériser votre magazine et de le rendre disponible, toujours en payant quelque chose. On ne peut pas avoir toujours un Internet gratuit. Ça ne se peut pas. Il faut aider quelqu'un et choisir pour qui on vote. Qu'est-ce qui va se passer à ce niveau, s'il vous plaît, M. Renaud Sellier, Journal du Yoga?
On est en réflexion, effectivement. C'est vrai qu'on est très attaché, on est attaché au papier. Sans être vieux jeu, on est attaché au papier parce qu'on pense que ça a une valeur et que c'est le projet éditorial vient du fait qu'on met plusieurs articles ensemble. Ce ne sont pas des articles séparés comme on pourrait trouver sur le net. Comment?
Qu'est-ce que vous voulez dire par plusieurs articles ensemble? Donnez-nous un exemple concret.
Un journal, c'est un tout. Mais nous avons effectivement une réflexion sur la numérisation pour donner accès à ce journal via les tablettes graphiques, les téléphones, sur tous les supports aujourd'hui de lecture, les liseuses, tous les supports de lecture numérique. C'est une chose qui est tout à fait légitime. On est en train de réfléchir, voir au niveau technique ce que ça représente. On est un tout petit peu freiné par les plateformes de distribution des contenus numériques qui sont l'Apple Store ou la plateforme voilà, qui aujourd'hui prennent pour cette diffusion plus de 30% de commission. Et donc comme l'ensemble de la presse, on trouve que la position léonine de ces plateformes fait qu'ils ont des commissions qui sont beaucoup, beaucoup trop élevées et qui nous encouragent peu à diffuser sur ces supports-là.
Ils sont gourmands.
iTunes, ils sont trop gourmands et ils reproduisent les marges d'une distribution traditionnelle en magasin qui avait des frais. Oui, quand vous donnez 40% ou 30%, quand vous donnez 30% à un libraire sur l'achat d'un livre, c'est normal. Lui, il a des frais, il est là, il est présent. Sur une plateforme numérique, c'est une plateforme où les coûts de fonctionnement sont bien plus bas.
Et en plus, le modèle de placer de la publicité sur Internet, sur un site web particulier avec les grands de ce monde, les oligopoles qui existent, les redevances de ceux qui acceptent faire paraître une publicité sur leur propre site sont tellement minimes que ce modèle est remis en question aussi. Et donc, je vous comprends, M. Renaud Sellier, le journal du yoga, c'est un outil de communication qui permet de rassembler tous les yogas, une structure qui est fragile, que nous nous devons d'encourager. Donc, moi, je vous invite, toutes les personnes qui écoutent cette émission, en différé ou en temps réel, rendez-vous à annuaireduyoga.com. Inscrivez-vous, c'est gratuit. Consultez les informations. Encouragez le journal du yoga si vous êtes une entreprise qui a une vision internationale, puisque le journal du yoga rejoint ce public. Et pour ce qui est d'aider à faire en sorte que le festival, le yogafestival.fr version 2015 ait lieu dans un rayonnement et une démocratie participative, comme vous l'avez si bien expliqué, M. Renaud Cellier, les gens n'ont qu'à vous suivre sur votre page Facebook. L'information paraît sur yogapartout.com/journal du yoga. Et de plus, pour les personnes qui souhaiteraient obtenir de l'aide pour implanter le yoga dans une école publique, une école de quartier auprès des enfants, un article sur le site annuaireduyoga.com/quelque chose, vous allez trouver, vous allez mettre un bouton ou un article particulier, un Cellier, pour les gens qui voudraient continuer l'œuvre du RYE de Mme Micheline Flack. Alors, je pense que la communication s'est interrompue. Oups! Alors, vous êtes revenu, vous étiez parti, je pense que vous écoutiez. Ma question était, comment on va faire pour trouver sur votre site annuaireduyoga.com de l'information additionnelle?
Eh bien, vous le trouverez dans articles vous le verrez à son titre, RIE, les développements récents.
Bon, écoutez, je l'ai déjà trouvé au bas de l'écran. C'est bien écrit, RIE,
voilà.
Belle petite bannière jaune.
Je vais en mettre un autre pour compléter.
Ah oui, c'est là.
Merci, Daniel, en tout cas, pour...
Oui, ben écoutez, il nous reste du temps. On attend notre invité de la Fédération francophone de yoga. Je sais qu'il va être au rendez-vous. C'est simplement que je savais que son horaire à notre invité était très serré, mais il a accepté de se joindre à nous. Puisqu'il nous reste un peu de temps, Renaud Cellier, le journal du yoga, vous auriez un souhait, une pensée à formuler, quelque chose qui n'aurait pas été couvert durant notre entretien. Et ma dernière question par la suite, après avoir formulé ce souhait, c'est le suivant. Est-ce que vous allez demeurer en ligne avec nous pour que M. Vijnananda de la Fédération francophone de yoga se présente, nous puissions avoir une conversation à trois?
C'est avec plaisir que je resterai avec vous, et la Fédération francophone de yoga fait un travail aussi formidable et de son côté. Et on a eu quelques soucis pour bien se rencontrer avec la Fédération. Et donc ce sera un plaisir de parler avec Swami. Simplement, il faudrait que je serais obligé de quitter la conversation vers 15h30. J'espère que ça peut convenir.
Oui, ça va. On va faire notre discussion à trois si effectivement notre invité se présente. Et sur le mot de la fin, puis nous allons avoir une pause musicale. Restez en ligne, tout le monde, puisque cette émission continue d'être enregistrée. Le mot de la fin pour vous, un souhait, le futur, l'humanité, le bonheur, la santé, les enfants. La parole est à vous, mais vraiment, vous avez le mot de la fin.
Ben donc, je salue tous les auditeurs. Je pense que le yoga a quelque chose à voir avec la joie de vivre et c'est ce que je souhaite à tous, quelle que soit la condition et vos conditions de vie extérieures, parfois difficiles, parfois moins, mais que la joie soit avec vous.
Alors, mon prochain invité à Yoga Partout Web Radio, Swami Vijnananda, directeur d'un centre de bien-être, membre du Conseil mondial du yoga. Il est depuis de nombreuses années impliqué dans le monde du bien-être, dans le monde du yoga. Et c'est un privilège pour nous de l'avoir comme invité ici sur les ondes de Yoga Partout Web Radio. Et brièvement, avant de vous présenter Swami Vijnananda, j'aimerais quand même présenter un peu la Fédération francophone de yoga, puisque parfois on a de la difficulté à s'y retrouver avec autant de regroupements de yoga. Alors, la Fédération francophone de yoga est un organisme sans but lucratif, qui est la représentation du secrétariat officiel du World Wide Council of Yoga. De yoga, Swami Vijnananda, vous êtes mieux placé pour moi pour la présenter, mais d'abord, nous aimerions vous connaître un tout petit peu, si vous pouviez vous présenter, et je vais aussi faire les présentations, puisqu'en ligne avec nous se trouve Monsieur Renaud Cellier. Donc, Renaud, vous êtes toujours en ligne et vous allez vous joindre à notre conversation dans une dizaine de minutes. Est-ce exact, René?
Avec
Renaud?
Plaisir. Avec plaisir.
Bon, alors, Swami Vijnananda, une présentation de qui vous êtes et qu'est-ce que la Fédération francophone de yoga?
Alors, bonjour, merci de m'inviter. Alors, le yoga est entré dans ma vie très jeune, à l'âge de 20 ans, et j'en ai 57, donc ça fait plusieurs années que le yoga est une discipline qui a eu un impact majeur sur ma vie et que je continue à transmettre à travers l'enseignement. J'ai commencé tôt à enseigner aussi les différents types de yoga. Et c'est un peu ma voie quotidienne de transmettre à travers les enseignements, à travers les classes que j'anime, à travers la formation de professeurs de yoga aussi, pour continuer dans la lignée, comme vous avez mentionné, de la Fédération francophone de yoga qui veut offrir un cadre, non pas rigide, mais un cadre souple pour donner une crédibilité, si on voudrait dire, par rapport à l'enseignement, pour donner une validation qui s'assure de l'authenticité de l'enseignement et que cet enseignement-là est préservé dans sa nature. Les formes peuvent varier, mais l'essence doit être, les gens doivent pouvoir avoir un enseignement de qualité. Et c'est à ce titre-là que la Fédération francophone de yoga agit pour certifier les gens dans cette lignée traditionnelle et adaptée au monde maintenant moderne.
Et il y a une page, un code de déontologie de la Fédération francophone de yoga?
Oui, il y a un code de déontologie, effectivement, qui est là pour s'assurer que les professeurs qui sont reconnus par la Fédération francophone de yoga. D'abord, je voudrais faire une correction. Tantôt, vous avez mentionné le secrétariat officiel du World Wide Council of Yoga, mais c'est pour les pays francophones. Donc, c'est ce secrétariat-là n'est pas mondial, mais pour les pays francophones, parce qu'on est les représentants de la francophonie pour le yoga. Alors, le code
Et donc, vous représentez combien de personnes qui sont dans le yoga auprès de la Fédération francophone de yoga, du secrétariat officiel du World Wide Council of Yoga pour les pays francophones?
La Fédération compte 400 membres et est présente dans plusieurs pays, 400 professeurs certifiés et présents dans la francophonie au Québec, au Canada, en France, en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, au Liban. Alors, c'est professeurs et écoles qui sont certifiés par la Fédération francophone de yoga.
Merci. Et Renaud Cellier, puisque vous rencontrez beaucoup de professeurs, d'enseignants, de centres, de formations, d'écoles, de studios de yoga, est-ce qu'il y a la même structure, la même fédérée? Est-ce que le yoga est fédéré de la même façon en Europe? Qu'il est comme Swami Vijnananda vient de nous le décrire.
Non. Bonjour à votre invité. Je suis très heureux de pouvoir discuter avec lui. Non, la Fédération pour moi francophone de yoga, si elle porte bien son nom, doit pouvoir fédérer l'ensemble de la francophonie. Il n'y a rien d'équivalent en France. Donc la Fédération francophone de yoga a toute sa place en France. La France a un tout petit problème. La France ne sait pas, les Français ne savent pas se fédérer. Et donc en France, il y a un grand nombre de fédérations, un grand nombre d'écoles, un grand nombre de formations de professeurs. En France, si je peux me permettre, il y a presque que le journal du yoga qui fédère l'ensemble de la communauté. C'est-à-dire que la communauté ne sait pas se fédérer elle-même.
Ouais. Là, vous allez trouver des détracteurs sur ce que vous dites, M. Renaud Cellier. Le journal du yoga, c'est une business. Alors que d'un autre côté, nous avons Swami Vijnananda qui représente une association sans but lucratif. Qu'est-ce que vous dites?
Je comprends la notion de fédération.
Monsieur Renaud, vous pouvez aussi voir que sur le site de la Fédération, on nomme certaines associations et fédérations francophones, dont plusieurs qui viennent de France, qui sont reconnues. Donc, il y a un lien, parce que l'idée, c'est de se fédérer, justement. Mais s'il y a des fédérations ou des associations qui sont déjà actives, c'est de réunir et un petit peu rassembler ces énergies-là au lieu de diluer. Et la Fédération francophone, c'est pour ça qu'elle reconnaît. Il y a l'Institut français de formation en enseignement de yoga, Ayurveda, l'Association de yoga traditionnel. Alors, c'est certain que beaucoup d'associations existent, et peut-être de façon indépendante, mais s'il peut y avoir une réunification tout en gardant la liberté d'opération de chacune de ces associations-là, mais ça permet d'avoir un impact plus grand sur la francophonie et mieux transmettre le yoga aussi.
Je suis tout à fait d'accord, hein. C'était dans ce sens-là, mes propos allaient dans ce sens-là. Et il y a aussi une chose que fait, je pense, bien la Fédération francophone de yoga, c'est de normer, en tous les cas de définir un cadre d'exercice pour les professeurs de yoga. Alors qu'en France, il y a une réalité qui fait que il n'y a pas aujourd'hui de formation, je dirais, qui soit reconnue, à part sur quelques fédérations, qui soit reconnue pour leur qualité ou pour... Il n'y a pas de cahier des charges qui a vraiment été défini et qui soit... et auquel adhère l'ensemble des professeurs ou une grande partie, je veux dire.
Et effectivement, c'est important d'avoir ce minimum. Et c'est pour ça que la Fédération francophone fait partie de la Fédération internationale de yoga, qui regroupe plusieurs milliers de pratiquants de yoga, des millions même de pratiquants de yoga. Alors, ça fait en sorte que les gens de façon internationale qui sont formés en yoga, mais vont respecter les mêmes normes, quelle que soit leur langue, leur tradition, leur culture.
Bien sûr.
Et au moins dans la même langue, avoir une uniformité, c'est tout à fait légitime. Je pense que vous avez bien cerné le point.
Je suis tout à fait d'accord avec vous.
Comment on fait? Je m'excuse, allez-y Renaud.
Non, je disais que j'étais tout à fait d'accord avec Swami.
Bon. Mais comment on fait, moi, qui suis un yogi ordinaire, bon, on utilise des mots, c'est sûr, hein? Mais qu'est-ce que ça veut dire ordinaire? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des yogis qui sont extraordinaires? Ben peut-être, hein? On sait, il y en a qui sont vraiment particuliers, qui ont une pratique très sérieuse, qui sont contemporains dans leur yoga, mais en même temps, qui sont reconnus. Sauf qu'ils ne font pas partie de cette fédération. Tout le système du business du yoga, ils n'en font pas partie. Comment on fait lorsqu'on a un yogi ordinaire, on ça ne changera pas là, dans le mot ordinaire, qui, pour rayonner à l'international, doit cotiser à une organisation du côté français, une autre organisation que je ne nommerai pas du côté anglais, américain, peu importe où on se trouve, sur la planète qui est très commerciale et une autre qui peut-être est sportive, locale, géolocalisée. Le petit yogi là-dedans, comment il fait pour s'y retrouver?
Est-ce que quand vous parlez de petit yogi, est-ce que vous parlez d'un enseignant de yoga?
D'un yogi ordinaire, d'un professeur qui a pris une formation qui est supposément reconnue parce que l'école de yoga dit « tu prends mon cours, tu payes tant, et puis après ça tu vas pouvoir enseigner et tu te retrouves devant des étudiants avec quelques heures de formation ou plusieurs heures de formation. » Mais ce yogi ordinaire, que j'appelle le petit yogi ou le yogi ordinaire, ne fait pas partie d'aucune association. Comment cette personne qui veut enseigner et transmettre la connaissance de ce que le yoga représente, pas initié à une lignée ou à une autre, fait-il pour comprendre et être dans son yoga, dans toutes ces structures que vous avez mises en place?
Ben, les structures sont comme dans la société, sont là pour donner un cadre de référence. Alors, la personne qui a pris une formation de yoga, idéalement, préalablement, doit s'informer de l'école. Si on veut transmettre quelque chose, il faut savoir qu'est-ce qu'on transmet et ce qui est transmis. Et si l'école qui a formé le professeur a été est dirigé par lui-même un professeur qui s'est improvisé. Alors, c'est un peu ça qu'on veut éviter. Donc, c'est pas de mettre des normes, mais c'est surtout de s'assurer de la transmission. Et si la personne a une formation qui est déficiente, elle peut combler cette formation-là. Mais il s'agit d'évaluer à ce moment-là cas par cas, mais il faut juste avoir une norme. Et on est dans les débuts, c'est tout nouveau, la Fédération francophone de yoga. La Fédération internationale est plus ancienne, mais on est dans cette voie-là pour éviter justement la commercialisation du yoga et s'assurer que c'est pas une business. Et c'est la force ou le mandat que les fédérations de yoga veulent se donner, c'est d'être là pour aider, donc c'est pas de nuire, c'est d'aider les professeurs à avoir la meilleure qualité de formation qui puisse se transmettre à leur tour.
Est-ce que si vous permettez, je voudrais rajouter quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, en fait, les nouvelles générations de gens qui travaillent fort à vouloir enseigner le yoga, aujourd'hui, l'idée d'appartenir à une lignée, comme Krishnamacharya ou toute cette lignée-là, par exemple, qui était très attachée à la lignée, aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes très investis, ou de plus jeunes, je dirais, très investis, qui aujourd'hui démarrent avec une lignée et vont toute leur vie rechercher d'autres formations et expérimentent d'autres lignées. Aujourd'hui, il est peut-être moins important d'appartenir à une lignée que de cheminer au travers de ce que chaque lignée peut apporter. C'est un peu ce que j'observe en tous les cas. Alors, est-ce que ça veut dire qu'à la fin, la légitimité est à l'intérieur de soi simplement? Si quelqu'un va chercher effectivement un enseignement qui est multiple, il y a des gens qui vont se former au yoga, mais qui vont s'intéresser à la médecine chinoise aujourd'hui, qui vont approfondir l'Ayurveda, qui vont, etc., etc., et qui ne vont pas être d'une seule lignée, et qui ne vont pas transmettre une seule tradition, mais qui vont faire un melting pot de traditions. Alors, est-ce que c'est acceptable pour une fédération qui défend une lignée ou pas? Je ne sais pas.
Je ne crois pas que la fédération défende une lignée particulièrement. Au contraire, c'est la variété qui est proposée, mm-hmm. et c'est cette diversité-là, c'est de faire connaître la diversité et de la promouvoir même. Mm-hmm. Alors, je ne crois pas qu'on veut limiter, et c'est pour ça qu'il faut distinguer entre les lignées et les écoles. C'est certain qu'un enseignant, c'est assez rare qu'il appartient seulement à une lignée, parce que s'il y a un cheminement de 30 ans et plus.
Bien sûr.
il y a une évolution et on va chercher des éléments qui sont riches dans plusieurs traditions, dans plusieurs voies, dans plusieurs lignées initiatiques. Et l'idée, c'est de donner une base, une assise comme en yoga. Donc, c'est de s'assurer que l'aspect minimal est bien respecté. Hein. C'est juste l'aspect minimal.
D'accord.
Et demander, après ça, les gens ont toute liberté. Le yoga, c'est la voie de la liberté. Alors, on veut encourager cette liberté-là. Puis je pense que ce que vous avez mentionné, effectivement, c'est de tous les temps, hein, particulièrement de nos jours, l'information est accessible. Les formations aussi sont accessibles facilement. Mm-hmm. Alors, ça fait la richesse du yoga qui se renouvelle grâce à ces interlignées, si on pourrait dire.
Très bien. Oui, on est tout à fait d'accord. J'espère d'ailleurs...
Allez-y.
J'espérais, parce que comme je vais devoir vous quitter, je disais que j'espérais au niveau du journal du yoga ou du Yoga Festival à Paris, une plus étroite collaboration avec la Fédération francophone de yoga, parce que voilà, c'est aussi notre vocation, notre intérêt et l'intérêt de tous de mieux se connaître et de mieux travailler ensemble.
C'est d'utiliser les forces de chacun. Puis je pense que les collaborations sont essentielles parce que le yoga, c'est l'unité. Alors il faut continuer à préserver l'unité avec chacun nos outils de transmission. Puis vous avez un outil de transmission qui est d'organiser et de diffuser. Alors c'est une collaboration qui peut être très, très appréciée.
J'ai vu
Allez-y, M. Stenier, parce que je sais que vous devriez nous quitter bientôt. Allez-y.
Je disais que je voulais fêter la nouvelle revue virtuelle de la Fédération francophone de yoga qui s'est modernisée et qui est fort intéressante, qu'on peut trouver donc sur leur site web.
Et voilà. Merci à Christina Sergi qui s'occupe de la publication de cet ouvrage virtuel. Et je m'en voudrais de ne pas mentionner M. Renaud Cellier du journal du yoga, Swami Vijnananda, de la Fédération francophone de yoga internationale, liée au secrétariat officiel du White Council of Yoga pour les pays francophones, qu'il y a déjà des ponts qui ont commencé à être établis grâce à la part de Madame Lokana Sans Regret de chez Padma Yoga, que vous avez déjà rencontré, hein? Et donc, éventuellement, ce sera à la fédération, par l'entremise peut-être de Swami Vijnananda que nous avons en onde aujourd'hui, d'aller vous visiter, ou que ce sera le journal du yoga qui va venir visiter le Canada. Qui sera le premier?
Qui sait?
Parce qu'on a un colloque annuel, alors un colloque international, ce sera une belle
collaboration. Je suis content que vous parliez de ça. Je suis content que vous parliez de ça, puis je vais vous interrompre parce que je sais que M. Renaud Cellier du journal du yoga doit nous quitter. À quand, M. Cellier, avant que vous nous quittiez, vous allez dévoiler la date de votre festival et la question va être aussi approfondie avec la Fédération francophone de yoga. À quand les dates de tous les festivals qui se produisent localement, géographiquement, mondialement, en français, en anglais, tout ce qui a rapport avec le yoga, quand ces dates seront-elles faites de telle sorte qu'une personne qui veut aller à un festival ne soit pas pris à choisir parce qu'il y en a deux en même temps qui ont lieu?
J'ai vu que le colloque de la Fédération francophone avait lieu le 11 octobre, me semble-t-il.
Oui, exactement.
Qui était la date prévue également pour notre festival à Paris. Donc, mais comme nous l'avons annulé...
On va passer en duplex avec Skype, on pourrait unifier...
Non, mais le vœu de Daniel n'est pas vraiment possible que tous les festivals puissent se coordonner. Il n'y a que 300 jours dans l'année.
Ben oui.
Non, mais je crois que ce sont des événements complémentaires et qu'il faut poursuivre, voilà, que chacun poursuive dans sa voie et dans la complémentarité avec les autres pour faire cette union dont parle Swami Vinayananda.
Et voilà. Alors, merci beaucoup, Renaud Cellier, de tout le temps que vous nous avez
Merci à vous.
accordé. Et nous serons sûrement en communication de nouveau. Yoga Partout, Web Radio vous fera parvenir le fichier source de cette entrevue. Vous pourrez, à votre toute liberté, utiliser pour aider la cause de votre entreprise, le journal du yoga. Et à bientôt. Merci.
Merci à vous, à très bientôt. Merci Daniel, merci. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Alors, au revoir. Alors, nous faisons une légère pause et nous revenons pour discuter avec Swami Vijnananda de la Fédération francophone de yoga dans un instant. Alors, re-bonjour Swami Vijnananda, merci d'avoir accepté cette invitation. Nous avons un peu inversé l'ordre des choses pour ce qui est de la discussion entre la France et l'Amérique. Je vous remercie d'avoir été si flexible et d'avoir, comme ça, échangé avec notre invité, Monsieur Renaud Cellier. Swami Vijnananda, vous avez brièvement présenté la Fédération francophone de yoga et j'aimerais qu'on parle un tout petit peu plus du code de déontologie, des activités de formation et des partenariats qui font partie de l'ensemble de ce que la Fédération francophone de yoga représente. Pouvez-vous continuer votre présentation et donc nous expliquer un peu l'importance du yoga, du rôle de la Fédération francophone de yoga sur l'ensemble de ce que le business du yoga représente, puisque c'est le thème aujourd'hui, Swami Vijnananda, lorsque dans la première partie de notre émission web radio sur Yoga Partout, nous avons discuté avec Monsieur Renaud Cellier du journal du yoga, comment on fait pour unifier l'aspect entrepreneurship de ce qu'une école, un centre de yoga à laquelle il doit faire face, et la pratique personnelle et le cheminement dans la lignée du détachement de l'aspect matériel du yoga. Pouvez-vous prendre la suite là-dessus ou ma question est trop vaste ou trop
C'est très
générale?
vaste. Vous avez couvert l'univers.
Oui,
Est-ce qu'on peut simplifier et commencer par un item à la
Oui.
fois?
Oui, on va y aller avec terminer la présentation de la Fédération francophone, puisque pour les personnes qui ne connaissent pas l'organisation, il y a des statuts, il y a un code de déontologie, et donc la parole est à vous.
Alors, la Fédération francophone de yoga est au service, dans le fond, des professeurs et des écoles de yoga. Et elle est là pour, comme M. Cellier mentionnait, offrir, entre autres, une revue virtuelle qui permet d'avoir accès de l'enseignement, le site Internet qui a une multitude d'informations, d'abord pour faire connaître le yoga et aussi pour supporter les professeurs dans la diffusion de certaines activités de formation. pour les écoles aussi, et de chapeauter ces formations-là pour donner ce qu'on a mentionné tantôt, une crédibilité aux certifications qui sont fournies par les écoles. Donc, quand un professeur est certifié par une école qui elle-même est certifiée par la Fédération francophone de yoga, mais les étudiants de ce professeur sont assurés d'avoir un enseignant de qualité parce que ce professeur-là a été formé à une école où le dirigeant de l'école était ce qu'on appelle un yogacharya. Un yogacharya, c'est un maître en yoga, et cette personne-là doit avoir un minimum de 10 années d'enseignement du yoga. Et elle a été nommée par un grand yogacharya, un grand maître en yoga, et tout ça dans une lignée spirituelle qui fait que ça, l'aspect business n'est même pas un élément qui fait partie du code de déontologie, dans le sens que c'est pas une entreprise, c'est plus qu'une profession. Hein, un code de déontologie, ça fait partie des professions habituellement. Alors l'enseignant en yoga, c'est même pas une profession. Moi, quand je forme des professeurs de yoga, c'est un mode de vie que je leur enseigne, et eux deviennent eux-mêmes transmetteurs de ce mode de vie-là. Et oui, il y a un aspect de rémunération, mais on sait bien que les professeurs de yoga ne gagnent pas leur vie abondamment avec cette profession-là. Mais c'est pour ça que cette partie d'être formé par un maître en yoga s'assure que la dimension spirituelle est à la base du yoga. Et la dimension spirituelle n'exclut pas les activités matérielles, de faire connaître l'enseignement, mais les fondements, c'est spirituel. Le yoga, c'est une voie spirituelle, alors on ne peut pas mêler la spiritualité, on ne peut pas vendre la spiritualité, on peut juste transmettre les outils pour accéder à la dimension spirituelle, qui est la dimension de la nature humaine qui est présente en chaque être humain. Donc, c'est pour ça que le code de déontologie s'assure à la base que les professeurs sont formés par un yogacharya et qu'ensuite ce professeur-là suit les lignes directrices du code de déontologie pour certifier que ce professeur a bien les qualités morales d'abord et ensuite techniques pour diffuser l'enseignement du yoga. Donc c'est à ce titre-là D'accord. que la fédération est là pour donner ces balises-là pour et c'est, ça assure le grand public qui s'initie au yoga qu'il va tout de suite avoir accès à un enseignement qui est fondamental. En respect avec la tradition du yoga, mais accessible à un monde plus moderne.
Et voilà. Voilà, merci beaucoup. Merci, Swami Vijayananda. Et donc, on parle d'intégrité, on parle d'une tradition, on parle justement d'une organisation qui permet au grand public, qui parfois ne sait pas trop où s'adresser pour approfondir ses connaissances. Swami Vijayananda, comment on fait pour reconnaître si je suis une personne du grand public et que je m'en vais dans une école, il y a toujours des photos, des affiches, des informations qui sont disponibles sur des sites web. Comment on fait pour reconnaître qu'une école est intègre? Comment on fait pour reconnaître qu'un professeur est justement est en accord avec cette tradition ancienne du yoga?
C'est à la base, si le professeur est certifié par la Fédération francophone, c'est l'assurance que cette dimension de base minimale, elle va être présente chez l'enseignant. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas membres de la Fédération francophone n'ont pas les qualifications. La Fédération veut regrouper les professeurs qui ont ces qualifications-là. Il y en a certains qui ne sont pas membres actuellement, mais ça n'empêche pas que ces gens-là peuvent voir l'avantage d'être, de faire partie de la fédération. Donc, plus il va y avoir de professeurs qui sont reconnus par la Fédération francophone de yoga, plus les gens vont pouvoir distinguer et de choisir. Hein. C'est un choix personnel. C'est pas une police. C'est juste donner une couleur et une montrer que le rayonnement, parce que le yoga, c'est le rayonnement, donc ce rayonnement-là, fait en sorte qu'il est reconnaissable quand les gens voient le logo de la Fédération francophone de yoga. Si on voit l'attestation d'accréditation dans l'école, on est assuré que ces critères-là minimales de l'enseignant, tant par l'aspect des standards pour la partie plus technique que la partie du code de déontologie, est respectée. Donc, c'est cette partie-là qui va faire en sorte que les gens peuvent reconnaître. Donc, s'il y a 400 professeurs déjà dans la francophonie, mais ça permet aux gens d'avoir le choix entre un professeur qui n'est pas reconnu par la fédération et un professeur qui est reconnu. À mon avis, le choix est assez simple à faire à ce niveau-là, mais ça n'empêche pas que des gens qui enseignent sans faire partie de la fédération peuvent offrir un bon enseignement.
Ouais.
L'idée, c'est de regrouper. Donc, on ne veut pas segmenter, vous dire il y a des bons professeurs, des pas bons. Au contraire, on veut juste faire croître le réseau des professeurs qui ont cette accréditation-là, tout simplement.
Et donc, vous encouragez un aspirant qui veut devenir professeur de yoga de magasiner l'école de formation?
Quand on parle de magasinage, on n'est pas dans le yoga. On ne magasine pas le yoga.
Vous comprenez ce que je veux dire, là? C'est que des fois, un élève se rentre dans un studio de yoga et il peut arriver que le studio de yoga ait une formation pour que cet aspirant-là devienne professeur. Et j'ai déjà entendu, je ne nommerai pas de nom, de studios de yoga qui vont parfois mettre de la pression pour que l'aspirant s'inscrive le plus rapidement possible à la formation intensive parce que, il y a des contraintes matérielles. Et là, ce que vous me dites, c'est que vous incitez le grand public, les aspirants qui veulent devenir professeurs de yoga à choisir, à interroger. C'est ce que je voulais dire par magasiner.
Oui, effectivement, il faut faire son étude, son enquête, trouver le professeur qui nous convient, la voix qui nous convient aussi, parce que chaque professeur a une voix qui est unique, et d'aller d'abord sur le site de la Fédération francophone et voir les écoles qui sont reconnues, qui sont formatrices d'aspirants professeurs. Et avec ça, effectivement, d'aller pouvoir valider si cet enseignement-là, ou l'enseignant, parce que l'enseignement reste quand même assez similaire, mais est-ce que l'enseignant convient aussi à l'élève? Et de cette façon-là, c'est une découverte. Et comme M. Cellier le mentionnait tantôt, mais il peut y avoir plusieurs enseignants dans un cheminement de professeur de yoga. Pour débuter, je pense que le choix le plus logique et le plus sensé, c'est de commencer par une école certifiée et de faire son choix selon notre cœur. C'est la voie du cœur, le yoga.
Voilà.
Donc, c'est pas des contraintes de date ou de prix, ou etc. Je pense que c'est mieux de retarder un an, d'avoir un professeur, parce que moi-même, j'ai des gens que j'ai formés qui ont débuté à un endroit, puis finalement, ils ont abandonné parce que l'enseignement ne leur correspondait pas. Ils ont pris une décision trop rapidement. Alors, la vie devant soi, alors c'est mieux vaut prendre son temps pour choisir, effectivement.
Et voilà. Merci beaucoup, Swami Vijnananda, représentant officiel secrétaire Canada pour la Fédération francophone de yoga, qui est un organisme sans but lucratif. Donc, le secrétariat officiel du Worldwide Council of Yoga pour les pays francophones. Swami Vijnananda, J'aurais le goût d'aller un peu plus à fond dans le code de déontologie et peut-être nous y reviendrons à un autre moment donné dans une autre rencontre web radio, sauf qu'il nous reste seulement une dizaine de minutes ensemble. Le temps passe si vite. J'aurais par contre le goût de vous demander justement. On va prendre un exemple, là. Nous sommes en France, nous sommes en Europe, nous sommes en Belgique, en Suisse, au Maroc. Yoga Partout rejoint un auditoire qui est très vaste dans la francophonie. Et si, par exemple, il y a un professeur qui veut justement devenir membre de la Fédération francophone de yoga, votre site web qui est fédérationyoga.qc.ca. Est-ce que ça veut dire ça que votre fédération s'adresse seulement à ceux qui demeurent au Québec, le .qc.ca?
C'est une adresse Internet, alors les adresses sont accessibles partout dans le monde, alors qu'on a une extension .fr, .com, .org ou .ca. Et maintenant, il y en a une multitude de nouvelles terminaisons. Ça peut de signification sur l'accessibilité. Donc, le CA, c'est parce que le siège social est ici au Canada. Mais c'est une question tout simplement pratique. Alors, ça rejoint la francophonie. Dans la francophonie, on dit qu'il y a 56 pays membres qui regroupent 220 millions de personnes alors qui parlent français. Alors, les gens peuvent contacter ce site-là, où qu'ils soient, en Afrique, en Europe, dans les Caraïbes, un peu partout sur la planète. Le site est facilement accessible et le lieu physique du secrétariat importe peu parce que la francophonie est un peu partout dans le monde aussi.
Et donc, si je suis une personne qui demeure dans une localité, qui écoute cette entrevue, et je veux être certifié auprès de la Fédération francophone de yoga, comment je fais s'il n'y a pas d'organisation qui est déjà accréditée par votre Fédération francophone de yoga, qui, soit dit en passant, est reconnue mondialement, mais qui n'est pas présente physiquement partout? Comment vous faites pour certifier des professeurs qui veulent devenir membres?
Ben, si d'abord le professeur il peut valider que peut-être déjà son association, sa fédération francophone, elle est déjà reconnue, il y en a presque une quinzaine sur notre site qui sont mentionnées, j'en ai mentionné quelques-unes tantôt. Simplement Fédération française de Hatha Yoga, Fédération française de yoga, Durga Sadini Centre de France, il y en a plusieurs, Institut international de yoga France. Alors ces gens-là qui peut-être déjà sont membres de ces fédérations, ces associations, mais ils sont automatiquement reconnus par la Fédération francophone de yoga. Alors simplement de soumettre leur dossier à notre secrétariat pour approbation et si tous les critères sont remplissent les exigences, c'est tout simple, hein? c'est pas des formalités complexes. Et d'autres personnes qui ont d'autres formations, mais il s'agit de valider cas par cas, hein? c'est différent.
D'accord.
Selon chaque individu.
Et est-ce qu'il y a des exceptions? C'est-à-dire que je reviens au même scénario où une petite école dans un pays francophone qui n'a aucune affiliation directe ou indirecte avec un centre de formation déjà reconnu, est-ce que à ce moment-là, cette personne, cette école, ce studio peut quand même faire sa demande pour devenir membre? Est-ce qu'il y a des exceptions à lesquelles votre organisation va reconnaître?
Donc, l'idée Daniel, ce n'est pas d'exclure les gens. L'idée, c'est d'informer les gens sur les prérequis. Et lorsque les gens sont au courant des prérequis, on évalue si ces prérequis-là sont rencontrés. Tout est dans l'ordre. Si ces prérequis-là ne sont pas rencontrés, mais c'est à la personne de prendre la responsabilité de s'assurer d'aller chercher les compléments qui pourraient lui manquer pour arriver à avoir cette certification, tout simplement.
D'accord.
Donc, il n'y a personne qui est exclu. C'est juste de valider ce qui est nécessaire. Donc, et c'est pour ça que chaque dossier est différent et si les prérequis ne sont pas présents, à ce moment-là, la personne va être renseignée sur ce qui pourrait être demandé pour faire partie de la fédération, tout simplement.
Et voilà. Alors, parlons un tout petit peu, avant de terminer notre rencontre, Swami Vijnananda, de la Fédération francophone de yoga, organisme sans but lucratif, de l'événement annuel qui se tient régulièrement, donc à chaque année, une rencontre, je pourrais dire presque internationale, puisqu'il y a souvent des invités internationaux. Pour 2014, le 11 octobre, il y aura ce colloque où vous recevrez plusieurs invités. Comment ça se passe si effectivement une personne veut participer à cet événement, mais qu'elle n'est pas encore reconnue comme professeur? Est-ce que c'est ouvert au grand public? Pouvez-vous nous décrire un peu l'atmosphère et le déroulement de ces rencontres annuelles, s'il vous plaît?
Alors, vous avez bien mentionné le colloque francophone, et il est international, puisque la Fédération francophone de yoga, elle est internationale, parce que la francophonie est internationale, donc toutes les activités de la Fédération touchent toutes les personnes qui sont intéressées par le yoga. Alors, ce n'est pas, encore une fois, exclusivement réservé aux membres de la Fédération francophone de yoga. C'est ouvert aux élèves, aux visiteurs, aux professeurs, aux écoles, et toutes les personnes de près ou de loin qui sont intéressées par l'aspect du yoga peuvent venir s'informer, se former aussi. Et donc, il y a des conférenciers qui sont invités. Il y a un programme toujours bien rempli où les gens ont l'occasion d'être en contact avec différents moyens ou compléments qui pourraient justement enrichir leur pratique ou leur faire découvrir des nouveaux outils qu'eux-mêmes pourraient utiliser soit dans leur vie personnelle s'ils sont pratiquants ou s'ils ne sont pas pratiquants, de commencer une pratique de yoga et pour les professeurs, mais d'enrichir aussi leur enseignement et peut-être d'aller chercher des formations complémentaires parce qu'on amène les professeurs jusqu'à une formation de yoga, professeur de yoga thérapeutique. Alors, c'est ouvert du néophyte qui n'a jamais fait le yoga à les grands maîtres de yoga qui sont là pour partager leur rayonnement à travers cette journée de célébration. Dans le fond, on célèbre. Il y a un thème à chaque année. Le thème cette année, c'est le yoga qui est un chemin de paix. Alors, ça va être une célébration de la paix. Avec différents intervenants, différents conférenciers, parties plus de méditation à travers la musique, d'intériorisation, de méditation aussi. Alors, c'est un événement à ne pas manquer, comme vous avez mentionné, le 11 octobre 2014, qui est à Montréal, cet événement-là.
Et voilà. Eh bien, c'est tout le temps que nous avons de disponible. Swami Vijnananda, je vous remercie beaucoup d'avoir, comme ça, changer votre horaire, adapter vos réunions en fonction de notre invité du journal du yoga, M. Renaud Cellier, en France. Je vous laisse le mot de la fin sur une petite musique, un souhait que vous auriez, que vous pouvez formuler, qui permettra à ceux et celles qui vont écouter cette émission web radio qui sera aussi disponible sur YouTube dans un futur éventuel de continuer à faire rayonner ce yoga. Donc je vous laisse le mot de la fin et je vous remercie encore d'avoir accepté notre invitation.
Ben, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup aussi à vous de participer à faire connaître la Fédération francophone de yoga. Et le yoga, c'est la réunion. Alors, c'est le souhait que tous les gens puissent se réunir dans cet esprit du yoga pour apporter à la société cette paix qui va être le thème de notre prochain colloque, cette paix intérieure et cette paix aussi au niveau social et mondial. À très bientôt.